Quand on parle à des commerciaux de leur CRM, beaucoup trop sortent encore leur revolver. Et pourtant, d'après les études de Forrester, je cite, « Quand toutes les équipes d'une entreprise utilisent un système CRM partagé, la probabilité qu'elles offrent une expérience exceptionnelle à leurs clients est le 14% plus élevée. » Forrester, une étude de 2021. Pour creuser ce sujet, j'ai interviewé Sonny Paris, fondateur de NoCRM. Ensemble, nous avons évoqué la possibilité qu'un outil de CRM avancé puisse renforcer le rapprochement vente et marketing.
Vous écoutez bien les podcasts de Sparklane sur le blog Sales and Marketing Insiders, le blog d'information sur la vente en B2B.
Bonjour, je suis Yann Gourmelec de Visionary Marketing. Bienvenue dans les podcasts de Sales and Marketing Insiders. Le sujet du jour, comment un outil de CRM peut-il aider au rapprochement vente et marketing avec Sonny Paris, le fondateur de NoCRM, qui nous a partagé son expérience du terrain dans ce domaine.
Eh bien, je suis avec Sonny Paris. Bonjour Sonny. Tu es le fondateur de NoCRM et nous allons parler justement aujourd'hui de comment le CRM peut renforcer le rapprochement vente et marketing sur le podcast de Sales and Marketing Insiders. Et alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est une qui me revient souvent, parce que c'est un sujet qu'on aborde souvent, cette fusion alignement vente-marketing. Et à chaque fois que j'en parle, on me dit, ah non, mais non, c'est fini, ça c'était l'ancien temps, maintenant, tout va bien, tout est parfait, ça marche. Alors, est-ce que c'est un sujet encore aujourd'hui ou est-ce que c'est encore un peu difficile de faire collaborer les deux ensemble?
Ouais, bonjour Yann, c'est un sujet non pour moi qui est évidemment pas résolu. De toute façon, un sujet qui s'adresse, qui est dans la même veine que le sujet de la collaboration en entreprise et de la collaboration entre les équipes. Je ne sais même pas si c'est un sujet qui peut se résoudre. La question, c'est effectivement de faire pour que ça fonctionne le mieux possible et bien essayer de comprendre les problématiques de l'autre équipe avec laquelle on travaille pour que tout le monde travaille en bonne intelligence. Mais non, c'est pas du tout un sujet qui est fini. On voit encore des tonnes de commerciaux qui sont pas du tout contents de leur CRM. On voit des gens qui génèrent des leads qui sont pas contents de l'absence de suivi des leads qu'ils ont générés. Donc, ça reste un problème.
Ouais, il y a toujours un peu cette tendance à les reporter, c'est peut-être naturel d'ailleurs, le problème sur le voisin, parce que c'est pratique aussi.
Oui, mais alors ça, c'est là où on est au cœur en fait d'une problématique même qui est plus large, hein. On verra les spécificités de la problématique marketing sales, mais c'est la problématique du travail dans l'entreprise où toute équipe pense que son travail consiste à faire son travail et qu'après mécaniquement l'autre équipe va venir ramasser le morceau, le paquet et s'en charger. Or, ce qui est très important, c'est d'assurer le passage de témoin. C'est-à-dire quand on a fait son... Et d'être sûr que la personne a bien récupéré le témoin et qu'elle part dans la bonne direction avec ce témoin. Et si on ne fait pas cet effort-là, et si on ne considère pas au contraire que cet effort-là fait partie de son propre travail, alors évidemment, c'est compliqué. C'est comme ça qu'on dit, bah, moi, je ne comprends pas, j'ai fait mon travail, j'ai mis un lead ici. Alors c'est bon, c'est nécessairement la faute de l'autre. Après, l'autre de l'autre côté va te dire autre chose, évidemment.
Oui, bien sûr. Bon, après, tout est une question aussi d'objectif, je suppose. Quelque part, entre le marketeur à qui on demande de fournir des leads, il fournit des leads. Mais on ne lui demande pas non plus de réussir à transformer ses leads en clients.
Tout à fait. Mais le commercial, de la même manière, on va lui demander, lui, de closer des leads et de faire un chiffre d'affaires. Et finalement, s'il pense qu'il va faire un chiffre d'affaires avec d'autres leads qu'il a ou d'autres clients qu'il a automatiquement, ben, il ne va peut-être pas nécessairement choisir de travailler les leads que le commercial a généré, et s'il est un peu, voilà, si ces leads ils sont pas parfaitement comme il voudrait ou qu'ils ont un mauvais taux, qu'ils ont été mal qualifiés, bon bah voilà, hein, le marketing ne génère pas nécessairement les leads parfaits que tu voudrais absolument avoir, et donc finalement le commercial a pas nécessairement pas tort de pas les gérer puisque on lui a donné un autre objectif. Donc tu peux avoir deux équipes qui travaillent exactement sur l'objectif, qui font leur objectif et dont tu t'aperçois à la fin qu'en fait la chaîne de valeur est strictement nulle.
En fait, j'ai un peu l'impression que c'est un sujet éternel et qu'on peut refaire cette interview dans 10 ans et qu'on l'aura encore. Quoique, de plus en plus, on voit des directeurs marketing qui sont aussi directeurs commerciaux.
Oui, ou qui prennent en main. C'est vrai que nous, on a par exemple dans nos clients des gens qui sont effectivement qui sont dans la gestion du lead, mais qui suivent aussi les équipes sales et qui s'assurent que effectivement tous les outils soient bien connectés et finalement que le sales et que son travail de sales à faire et que finalement le marketing, à vraiment penser à quel était le processus métier du sales, et c'est arrangé, voilà, pour que tout s'enchaîne de manière assez propre, ouais, avec des outils d'automation et des choses comme ça.
Et puis si le directeur marketing fait aussi les ventes et vice versa, ben c'est, on peut plus rentrer dans cette discussion du c'est pas moi c'est lui, puisque
oui, tout à fait,
voilà. Ok. Ouais.
Bien. Mais en fait, c'est l'importance du suivi de la chaîne de valeur. Mm-hmm. Ça, c'est toujours, en fait, à partir du moment où tu considères que les chaînes de valeur, c'est vraiment des étapes distinctes, bah, t'as des points de cassure, et dans ces points de cassure, il y a des risques de perdre des choses intéressantes au passage.
Bien. Alors, passé cette introduction, comment les commerciaux perçoivent-ils le CRM aujourd'hui? Est-ce que on voit une évolution? Alors, depuis les débuts du SFA, là, du Salesforce Automation, là, on parle vraiment de la préhistoire, ce que j'ai vécu moi dans les années 90, les tout premiers outils de CRM pour les commerciaux. Et puis, au fil du temps, je suppose que ça a pas mal évolué. Est-ce qu'ils perçoivent ce CRM aujourd'hui comme un allié, comme une aide ou comme un ennemi?
Ah ben alors, toujours des difficultés par rapport au CRM. Souvent, c'est toujours vu quand même comme un élément de contrainte. C'est-à-dire que le CRM est pensé dans la gestion de la donnée, la gestion de la donnée client, et donc et la gestion du reporting commercial. Et donc finalement, c'est plus vu par le commercial comme quelque chose qui va servir aux autres que quelque chose qui lui sert à lui. Donc il a toujours encore cette impression souvent d'être ralenti par le CRM, c'est-à-dire la phrase que tu vas retrouver souvent, c'est « je perds du temps à remplir le CRM » ou « à renseigner le CRM », comme si cet outil ne devait pas être l'allié du commercial, oui, dans son travail au quotidien. Et c'est en ça qu'il y a toujours une problématique avec les CRM.
Oui, en fait, la réalité de la chose, c'est que ce CRM doit être un outil pour le commercial, et on va y revenir, parce qu'il y a peut-être des choses à faire pour que ça le devienne.
Exactement.
Alors, cette perception du CRM aujourd'hui, dont on voit qu'elle n'est pas forcément toujours bonne, est-ce que ça dépend des entreprises? Est-ce qu'il y a des entreprises où on réussit un petit peu mieux que ailleurs?
Plus ça va être cloisonné entre les équipes, plus ça va être difficile, et plus au contraire tu vas avoir des gens qui sont un peu à la frontière entre les équipes, plus ce genre de processus peuvent mieux se passer, c'est-à-dire plus on va avoir une compréhension vraiment des besoins de tous les utilisateurs de l'outil, pour faire la bonne solution, si tu veux. Mais souvent, c'est vrai que les commerciaux sont pas très tech-friendly, donc finalement, c'est pas nécessairement eux qu'on consulte au moment de la mise en place d'une solution, alors que les gens en marketing vont avoir des requêtes assez spécifiques, les gens au management vont avoir des requêtes assez spécifiques, à l'administratif, au suivi des ventes, etc., on peut avoir des requêtes assez spécifiques, et finalement, tout ça se fait un peu sur le dos du commercial quand on crée l'outil, si tu veux. Et donc, finalement, on en arrive à un outil qui n'est pas pensé pour le commercial, alors que le commercial doit l'utiliser pour tous les jours. Et je pense que là, on a un peu une des clés de la problématique. Mmh. Et CRM, on se rappelle, hein, ça veut dire Customer Relationship Management. Un commercial, c'est pas des clients nécessairement qu'il génère, c'est des affaires, il veut vendre. Hein, donc, il y a vraiment cette idée de processus comme ça et qui est assez importante.
Alors, je sais, quand on a préparé cette interview, tu m'as dit, il y a des entreprises où on voit encore des gens qui envoient des reportings avec des ventes réalisées il y a 6 mois. Comment c'est possible ça aujourd'hui?
Non, mais moi je vois des reporting, des fois je reçois des extracts de fichiers qui viennent de CRM avec des ventes effectivement qui sont pas à jour, c'est-à-dire que la personne n'a même pas vérifié que dans son CRM il n'y ait pas des entrées qui étaient complètement out of date et qui étaient périmées depuis un an, si tu veux. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que des fois tu as un rapport, on fait le minimum, on renseigne le CRM, on met l'entrée. Mais finalement, comme c'est pas l'outil de travail, bon, on a un truc qui est un peu en ruine, c'est une espèce d'archive qui sert pas à grand chose, en tout cas pas à grand chose au commercial.
Et est-ce qu'il faudrait pas faire en sorte, c'est peut-être un peu carcéral, hein, mais est-ce qu'il faudrait pas faire en sorte que la rémunération du commercial soit aussi dépendante de la qualité de son CRM? Si il fait des ventes qui ne sont pas renseignées dans le reporting, est-ce qu'on devrait en payer les commissions, par exemple?
Bah en fait, ça peut se discuter, mais la question c'est surtout à quoi sert ton outil. Donc, est-ce que c'est un outil qui n'est pas pour le commercial, donc qu'il doit aller renseigner pour avoir ses primes et pourquoi pas? Mais pourquoi pas aussi fournir un outil qui est un outil pour le commercial qui va l'aider à closer plus de deals, tu vois, et qui va l'aider à suivre ses ventes et à travailler, à l'aider dans son travail quotidien. Parce que nous, oui, c'est le principe avec nos CRM, c'est l'idée qu'on a, c'est de dire un commercial, c'est quelqu'un qui doit savoir quand est-ce qu'il doit faire une relance, qu'est-ce qui s'était dit avant, et quand est-ce qu'il doit rappeler son prospect, si tu veux. C'est avant tout ça le métier de commercial. C'est de savoir où on en est, comprendre s'il y a une chance de signer un deal ou pas, et de faire avancer ce deal vers la conclusion, et essayer de faire que ce processus ne traîne pas. C'est ça le métier de commercial. Et rien ne t'empêche d'avoir un outil commercial comme ça pour suivre ton activité commerciale, pour aider tes commerciaux au travail, et y compris un CRM après, une fois que tu as réalisé la vente, qui lui va être ce qui va être le repository en fait pour toutes les informations officielles de l'entreprise et pour tous les clients, si tu veux. Mais en fait, finalement, avant d'avoir un client, tu as un prospect. Et ça peut être un des éléments importants, c'est d'avoir un outil pour gérer ton prospect qui va devenir un client ou pour gérer les ventes additionnelles et ce genre de choses.
Alors, si je comprends bien, ça paraît récent, du côté du commercial, le CRM est un outil pour gérer finalement le cycle de vente du client. Et puis, de l'autre côté, on a le marketeur qui, lui, a des besoins. Il a aussi des objectifs et on lui demande aussi de consolider les ventes. On lui demande de faire des prévisions, même des fois, et ça m'est arrivé dans le passé, de faire des prévisions pour les usines, par exemple. Et tout donc, on est sur des choses qui sont finalement peut-être pas très faciles à réconcilier. Alors, le CRM, c'est un outil pour le marketing, pour la vente ou pour les deux?
Ça dépend aussi de la taille de l'entreprise. Dans une TPE-PME, tu n'es pas obligé d'avoir un CRM et tu peux avoir des outils spécialisés. C'est vrai que moi, j'aime bien les outils spécialisés qu'on connecte. Donc, un outil spécial pour le marketing, pour la gestion de ses bases de données, pour la gestion de ses emailing, pour la gestion de toutes ses opérations. Il y a des très bons outils spécialisés pour le marketing. Et une fois qu'on a un lead, on vient le déposer dans l'outil qui est spécialisé pour le commercial avec les bonnes informations. Et là, le commercial va pouvoir le reprendre pour finir éventuellement à la fin ou pas dans un autre CRM. Et ça, c'est une vision petite entreprise. Si tu veux. Sur les plus grosses entreprises, effectivement, là, tu commences à avoir un vrai besoin et le marketing va se retrouver avant et après, c'est-à-dire qu'il se retrouve en partie génération de lead, en partie communication, puis il va se retrouver en partie prévision, analyse. Et donc, effectivement, tu as plutôt intérêt à avoir quelque chose qui est assez complet. C'est que là que vont rentrer des grosses solutions, typiquement à la Salesforce, où finalement tu déploies un logiciel qui est l'infrastructure de ton entreprise. Mais ça nécessite aussi d'avoir des équipes qui l'adaptent, d'avoir des gens qui jouent le jeu pour bien comprendre comment le faire fonctionner. Et les coûts de mise en place ne sont pas du tout les mêmes. Et la réussite du projet n'est pas nécessairement là. C'est-à-dire que le besoin, il est évident. Après, est-ce que si tu veux pouvoir avoir des données en entrée, les données à la fin, il va falloir qu'au milieu, tu penses quand même au commercial et à l'aider dans son processus de vente.
Oui, alors, excellente transition. Parce que d'abord, il faudrait faire en sorte que ce CRM soit utile aux commerciaux et puis qu'il joue le jeu, c'est toi qui viens de le dire. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit utile véritablement? Ok, suivre le cycle de vente du client, mais enfin, c'est peut-être pas suffisant. Il faudrait peut-être qu'il y ait un bénéfice pour eux. Et qu'est-ce qu'il faut faire en sorte pour qu'ils changent d'attitude et qu'ils deviennent coopératifs?
Ouais. Moi, je pense qu'ils deviennent coopératifs par l'usage. Si tu veux, nous, on a un outil, par exemple, qui crée une opportunité, c'est très facile. On peut te créer aussi un formulaire pour qualifier tes prospects. Donc, tu vas créer ton script de qualification qui va être très simple ensuite à utiliser. Il y a des séparations entre ce qui est prospect froid, tu n'as pas encore contacté, les vraies opportunités sur lesquelles tu as démarré une conversation et sur lesquelles il y a un processus. Donc, il y a plein de choses. C'est intégré à tes outils d'email, à tes calendriers. Donc, finalement, tu mets le commercial dans une situation où il a envie d'utiliser l'outil de la même manière qu'on va utiliser un Excel, de la même manière qu'on va utiliser un Word ou un Google Docs parce que c'est plus facile, si tu veux. Donc, il faut vraiment arriver à un outil où le commercial va l'utiliser tout simplement parce que c'est plus facile de travailler avec l'outil que de travailler sans l'outil.
Ouais. D'accord. Et comment
Il faut pas le forcer à faire le. Bon, mais ça après c'est le rôle de l'éditeur de logiciel, et c'est aussi après. Donc ça c'est vraiment notre rôle sur la taille de cible qu'on a. Plutôt les équipes de 4 à 30 commerciaux, on est très bien. Sur des équipes plus grosses, souvent on a des clients des fois à 200 commerciaux. Mais sur les équipes plus grosses, en général, les besoins sont plus complexes. C'est ce que je disais. Il faut les personnaliser vraiment au métier. Il y a des choses qui ont besoin d'être plus intégrées, on va dire. Donc dans ce cas-là, tu vas partir sur des solutions plus importante. Mais c'est plus dur dans une solution. Souvent, les solutions généralistes qui peuvent faire beaucoup de choses sont un peu moins bonnes sur chaque segment du métier. Hein, c'est ça. Et c'est aussi ça, la difficulté souvent des gros CRM, c'est que l'application qui a été construite sur le gros CRM n'est pas nécessairement aussi bien que ce qu'on aurait pu espérer parce que tu as des contraintes de beaucoup de métiers en même temps.
Donc ça, c'est, je dirais, le côté carotte du CRM. Il y a peut-être le côté un peu bâton aussi. Il faut pour que ça coopère bien.
Non, mais bien sûr. Et si tu veux, le fait de dire peut-être, tes prix vont dépendre aussi d'atteindre des objectifs dans le CRM, ça peut être une manière d'assurer effectivement que la personne va... Voilà, il y a un petit incentive de plus, ou en tout cas être sûr que quand il a gagné un deal, les valeurs, les informations sont à peu près à jour, ou ce genre de choses.
Alors, ce CRM, il a été souvent un sujet de contentieux, on en a parlé entre les commerciaux et les marketeurs, et est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui?
Les choses sont quand même restent toujours assez segmentées, c'est-à-dire que les ventes, c'est pas le marketing. Et puis, je pense qu'en France, souvent, il y a aussi le côté on a tendance à dévaloriser un peu les commerciaux. Et donc, il y a aussi ces tensions qui sont vraiment des tensions liées à l'image, c'est-à-dire bon, grosso modo, les commerciaux vont être un peu mieux payés, les meilleurs d'entre eux vont être mieux payés, mais finalement, à part closer des deals, ils font pas grand-chose. Et les gens intelligents, c'est ceux qui sont en marketing, si tu veux. Et je pense que ça a tendance à juste titre à agacer les commerciaux parce que bah, le commercial, voilà. Bon, si on prend les images, bon, c'est un peu des images d'Épinal, mais avec l'équipe de football, c'est l'avant-centre, il est là pour mettre son but et c'est important, il en faut un dans l'équipe.
Alors justement, on parlait de la France et toi, tu vis au Royaume-Uni. Alors, est-ce que tu vois des choses différentes justement
Alors, c'est surtout, tu vois, on peut voir des petites différences qui sont un peu. Dans les comportements, on va voir ça beaucoup par exemple avec l'Amérique du Sud. Sur l'Amérique du Sud, on a une vraie différence. Par exemple, tu prends des rendez-vous pour faire du sales en Amérique du Sud, tu as une chance sur deux de te faire planter, c'est-à-dire que la personne ne se présente pas. Et ça, sans aucun problème, tu vois, c'est considéré presque comme normal. Non, après, les Anglais sont bons en marketing, bien plus naturellement bons en marketing que les Français. Ils sont plus habitués aux produits, donc les Anglais, ils vont plus facilement travailler avec un produit. Voilà, packagé et qui serait pas sur mesure, que des Français qui ont toujours tendance à aimer les cahiers des charges, envoyer des cahiers des charges, vouloir des choses spécifiques et vouloir des choses un peu trop personnalisées et qu'on peut peut-être un peu moins cet amour du produit.
Peut-être que si justement les commerciaux ont une meilleure connaissance du marketing aussi, qui fait qu'ils n'en ont pas non plus une vue caricaturale.
C'est possible, oui, c'est possible. De toute façon, en Angleterre, tout le monde, enfin, je veux dire, ça se voit dans l'éducation, dans les pays anglo-saxons, enfin, je veux dire, l'importance du discours, de la présentation, c'est quelque chose d'assez fondamental. Et il y a une vraie différence radicale entre les anglo-saxons et les Français, hein. Et je pense que si on pouvait s'inspirer un peu des anglo-saxons sur le marketing et eux, peut-être un petit peu sur notre capacité à notre côté ingénieur, ben voilà, je pense que les deux ont un peu raison et un peu tort en même temps, hein.
Il y a un côté amusant aussi en Grande-Bretagne, puisque les business schools en fait sont dans les universités la plupart du temps, et il n'est pas rare d'avoir des directeurs marketing, pour ne pas dire que ce soit la norme, qui ont en fait des licences d'anglais ou de français ou d'autres choses ou d'histoire.
Tout à fait, tout à fait. Bass, qui est une très très bonne université anglaise sur le marketing, très réputée, c'est une université, oui, bien sûr. Et puis, avec le système anglais, où on commence par faire des choses qui n'ont pas nécessairement à voir, pour d'abord s'ouvrir un peu l'esprit et faire d'autres choses, avant de travailler directement sur sa matière, notre spécialité.
Absolument, et surtout apprendre à parler et à écrire, ce qui est très utile. Alors, comment faire? On a vu les différentes difficultés, mais maintenant, comment faire pour réussir un projet de CRM qui mette les deux métiers du même côté de la table? Parce que ça suffit pas d'avoir un bon produit. Il peut très bien y avoir un bon produit et avoir encore des réticences à coopérer.
Bah, déjà, il faut impliquer les deux branches. C'est-à-dire qu'il faut que les commerciaux soient partie prenante à la discussion sur les typologies de leads qu'ils veulent générer et comment est-ce qu'on doit les faire arriver dans le processus et qu'on leur demande et qu'on suive, quoi, qu'il y ait un feedback tant sur leur action ou leur inaction et sur pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas. C'est-à-dire le point le plus important là-dedans, c'est le point de transition et être sûr que les gens se mettent d'accord sur qu'est-ce qu'on livre, qu'est-ce qui doit être livré. Et comment est-ce que ça doit être livré? Comment est-ce qu'on s'assure que c'est pris en main? Et si ça n'est pas pris en main, pourquoi? Est-ce que ce lead était mauvais? Est-ce que ce qu'on est en train de monter, c'est inefficace? Voilà. Et ensuite, la question qui se pose une fois qu'on a ça, qu'on sait ce qu'on veut faire, c'est les outils. Voilà. Alors, quel est le bon outil pour le marketing pour faire ça? Quel est le bon outil pour le sales pour faire ça? Et ensuite, comment on va faire parler ces deux outils? Voilà. Est-ce qu'on va utiliser, nous, par exemple, sur nos CRM, on a énormément d'intégration via Integromat ou via Zapier ou Integromat qui maintenant s'appelle make.com, qui sont des outils qui permettent très facilement de faire parler différentes applications SaaS. Donc que des choses qui se passent dans l'outil marketing puissent être automatiquement amenées au bon endroit dans l'outil sales. Ça, c'est tout à fait le genre de choses qu'on peut faire très bien.
Alors, est-ce qu'il y a des choses aussi qu'il faut faire dans cette mise en œuvre du projet de CRM, en termes, par exemple, de formation, d'accompagnement des commerciaux aussi bien que des marketeurs d'ailleurs?
Tout va dépendre de la complexité de l'outil qui est mis en place. Nous, on s'adresse à des TPE-PME et toute la force de notre outil, c'est d'avoir une prise en main extrêmement simple. Donc, en général, une fois qu'on a montré très rapidement, enfin, je veux dire, l'outil, il est trivial à prendre en main. Sur des processus qui vont être plus complexes, là, il va évidemment falloir des formations pour que les gens comprennent l'outil et comprennent à en tirer la meilleure partie. Et puis surtout pour leur expliquer pourquoi ça va leur apporter quelque chose de mieux. Parce que c'est ça quand même, dans une conduite du changement, il faut qu'une fois qu'on a mis en place un peu le changement, ce soit mieux après qu'avant. Et ça, c'est le point fondamental. Si c'est pas mieux après qu'avant, donc les gens sont prêts à payer une petite période de temps où ça va être moins bien, mais après, il faut qu'ils sentent un progrès si on veut qu'il y ait une adoption de l'outil. Et il va falloir aussi régulièrement remettre des petites couches quand il y a un peu de relâchement sur certaines choses, évidemment.
Oui.
On a toujours, la gravité nous ramène toujours à l'endroit où on est bien et c'est malheureusement très humain.
Alors, dans le cadre de cette mise en place de projet, on peut aussi probablement faire de ce CRM un référentiel commun au service des deux métiers, vente et marketing. Alors, comment faire ça?
Ça peut être complexe. Ça peut être complexe de faire vivre les deux vraiment dans le CRM. Et moi, je pense, c'est d'en faire un référentiel commun. C'est-à-dire, la question à se poser, c'est peut-être quels sont les quelques éléments d'information qu'on veut vraiment avoir dans ce référentiel et qui doivent être valides, et quels sont les éléments d'information qui sont moins importants et qu'on peut sacrifier, c'est-à-dire se mettre en commun sur les éléments pour moi de reporting qui ont vraiment du sens et pas en faire quelque chose qui devient encyclopédique. C'est-à-dire il faut pas que les problématiques du marketing deviennent les problématiques du sales et que les problématiques du sales deviennent les problématiques du marketing. Faut trouver quelle est la zone commune et quelle est la zone spécifique à chaque métier et s'arranger pour que les autres n'héritent pas du problème de. Parce que c'est souvent ça, finalement, pourquoi le CRM échoue chez les commerciaux, c'est qu'on a fait hériter aux commerciaux des problèmes des autres.
D'accord. En gros, on demande aux commerciaux de devenir des marketeurs et aux marketeurs de devenir des commerciaux.
Pire que ça, on demande aux commerciaux de remplir des informations pour les marketeurs et de remplir des informations pour les sales managers et de remplir des informations pour les CEO. Tu vois, c'est pas même pas de devenir, c'est juste faire une partie du travail de l'autre.
Est-ce que c'est pas une question de management et de présentation de la chose, parce que bon, c'est une façon de voir les choses, saisir pour les autres, et une autre façon de voir les choses, c'est de travailler à l'intérieur d'un groupe pour contribuer à un résultat commun.
Bien sûr, mais après, ça dépend des volumes. Par exemple, je vais prendre un exemple assez précis. Moi, à un moment donné, qu'est-ce qui nous a donné l'idée de faire nos CRM? C'est d'avoir, on avait un CRM et c'était très pénible. On l'utilisait pour vendre un autre produit. Et moi, je passais beaucoup de temps à remplir des informations dans cet autre CRM, parce que dans un CRM, avant de commencer à travailler pour faire du sales, il faut que tu crées une fiche entreprise, que tu ajoutes un contact à cette fiche entreprise, que tu ajoutes une opportunité et une action. Donc, il faut remplir quatre choses avant de commencer à travailler. Et ces quatre choses, finalement, si je signe pas cette entreprise, elles vont en plus servir à rien ni à personne. Donc, tu te retrouves à remplir beaucoup d'informations et qui, à la fin, s'avèrent en plus inutiles. Donc, c'est ça la problématique, c'est oui, bon, mais est-ce qu'on te demande de le remplir pour faire joli ou est-ce qu'on te demande de remplir pour quelque chose qui va avoir… C'est aussi, si tu veux, dans le reporting, il y a toujours une manie de rajouter des tags, rajouter des catégories, vouloir mesurer plein de choses. Et à la fin, on fait pas les analyses qui vont avec et on n'a pas nécessairement l'information. Et puis, de toute façon, l'information, elle a été récoltée de façon partielle. Donc, tout le monde est mécontent. Tu vois, ça, c'est aussi un souci. Ouais. Et c'est souvent ça que perçoit le commercial. On lui demande de faire des choses pour les autres qui n'ont pas d'impact à aucun moment sur son métier à lui et dont on n'est même pas sûr que ça va être utilisé derrière.
Est-ce que, pour conclure, tu ne pourrais pas nous donner, ou plutôt donner un conseil aux managers, aux dirigeants, pour bien utiliser l'outil CRM de façon à rapprocher les deux métiers?
Je dirais, la première question, c'est est-ce que vous avez besoin d'un CRM et pourquoi? Et ensuite, parce que CRM, pour moi, ça reste quand même la machine complète, le Customer Relationship Management. Donc, se poser d'abord la question, est-ce que vous avez besoin de briques? Et moi, je pense que jusqu'à une certaine taille d'entreprise, et qui peut aller assez haut, tu n'as pas besoin d'avoir un CRM complet. Tu peux avoir besoin d'un CRM des fois pour tes clients, pour gérer ton support client, pour gérer tes abonnements et ce genre de choses, mais tu n'as pas besoin nécessairement d'un CRM complet pour ton marketing et ton sales. Tu peux avoir ton marketing qui est sur un outil, tu peux avoir ton sales qui est sur un autre outil, et tu peux avoir ton support qui est encore sur un troisième outil, du moment que tu as la glue entre ces outils. Donc, la première problématique, c'est une problématique d'identification. Quel est ton vrai besoin? Est-ce qu'aujourd'hui, ton problème, c'est un problème de suivi des leads? Est-ce que c'est un problème de génération de leads? Est-ce que c'est un problème de support client? quelle est la partie que tu vas adresser en premier là-dedans et celle d'après, et ensuite comment tu vas faire parler les choses pour créer un vrai processus qui va passer d'une équipe à une autre équipe. Mais on n'est pas du tout obligé de démarrer tout de suite en disant je vais implémenter un CRM et qui va être le même CRM quelle que soit l'équipe dans laquelle je suis et qui finalement va générer cette frustration. Voilà. Ça, effectivement, sur une entreprise de 1000 salariés, bien sûr, il y a besoin d'un outil qui gère le customer et les employés. Voilà, évidemment, on a besoin d'outils qui sont très larges parce que c'est quelque chose de complexe. Mais jusqu'à une certaine structure de taille, c'est pas la problématique. Faut pas essayer de résoudre des problèmes qu'on n'a pas. Voilà, c'est probablement ça mon premier conseil à un manager, c'est quel est le problème. Et donc, en général, l'avantage du SaaS, c'est qu'aujourd'hui, on a des produits qui adressent une problématique très 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 bien, que ce soit au marketing, soit au sales, soit à la facturation, que ce soit à la téléphonie en VoIP, il y a des solutions super. Donc on peut faire son marché, on peut construire comme ça la bonne solution sales marketing, support sales marketing, sales support, dans la combinaison qu'on veut, avec des super applications pas chères et qui permettent aussi de grandir. C'est-à-dire que c'est plus facile de se lancer dans un gros projet CRM si on a d'abord l'expérience de plusieurs applications. Comme ça on sait ce qu'on veut, on sait ce qui fait de la valeur et ce qui est important.
Écoutez bien les podcasts de Sparklane sur le blog Sales and Marketing Insiders, le blog d'information sur la vente en B2B.